Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Augmentez votre taux vibratoire, les amis.
Tu veux du sale? Elle veut du sale. Tout le monde veut du sale.
On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h.
Tu veux du sale?
Et nous, sur Facebook, c'est JMD 96.9.
Oyez, oh yeah, oyez! Oh yeah.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier. Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à notre cinquième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin.
Salut Jeff, ça va bien?
Ça va super bien. Écoute, dernière émission de la saison.
C'est la fin de la saison signée COVID.
Signée COVID. Ouais. Et on espère repartir en janvier avec notre sixième saison. C'est confirmé. Yes, sans COVID, ça c'est non confirmé.
À voir.
Puis écoute, c'est important dès le début de l'émission qu'on parle de la grande, pas de la grande guignolée, mais de la guignolée à Lévis, du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. On a rencontré Maude la semaine dernière, samedi le 12 septembre au Galerie Chagnon. Il va avoir une collecte aujourd'hui. De dons.
Ouais.
Aujourd'hui, justement, passé, on va avoir notre équipe qui va être présente. Tu le sais, on s'implique dans la communauté, on s'implique avec le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. On va être là pour servir des cafés, on va être là pour collecter les dons. Tout le monde doit se réinventer. Puis le Centre de pédiatrie sociale fait partie de ceux qui se sont réinventés avec la guignolée. Habituellement, on faisait des ponts pour collecter les... des ponts routiers pour collecter les sous directement
aux lumières,
aux voitures, etc. Tandis que là, il faut se déplacer aux Galeries Chagnon à Lévis. C'est aujourd'hui, samedi, le 12 septembre. Important pour
décembre.
Vous de présenter... décembre, ouais, décembre, c'est comme deux mois en retard. Bon, 12 décembre, c'est aujourd'hui. Présentez-vous, ça va nous faire grand plaisir de vous accueillir avec toute notre équipe puis le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Tu sais, on a eu plusieurs professionnels du financement commercial, multilogement, ouais. Résidentiel, de quelle façon ça fonctionne, etc. Aujourd'hui, on reçoit Denis Nadeau. Bonjour, Denis.
Bonjour Jean-François.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, t'es courtier hypothécaire chez Groupe Commercial. Tu travailles en étroite collaboration avec Jeff Labrec.
Oui.
Puis Jeff Labrec est une personne que moi et Kevin, on connaît super bien de par notre parcours sportif.
Ouais, exact.
Puis on sait que les gens sportifs de compétition amènent des résultats vraiment excellents.
Ouais.
Puis pour avoir l'occasion de parler régulièrement avec Jeff sur différents dossiers, ben on le sait que c'est pris en charge, on le sait que ça avance, on le sait que ça va super bien. Fait que tu sais, moi quand j'envoie mes investisseurs à Jeff Labrec puis à votre groupe commercial, ben tu sais, je me ferme les yeux puis je sais qu'ils sont
des machines
puis qui sont bien pris en main. Toi, t'es courtier hypothécaire depuis 2015, mais le background pour en arriver là, c'est quoi?
Bon, première des choses, avant ça, j'étais sur la construction. Je suis retourné à l'école aux alentours à 26 ans. Puis après ça, je suis allé au... À Laval, tabarnouche, ça va bien. Ça commence bien.
Ouais, pas de problème. Au bac?
Pas trop.
Non, dans le fond, c'était un cours à Laval pour être courtier hypothécaire dans le privé. Puis après ça, j'ai commencé comme courtier résidentiel traditionnel. Puis tout de suite, j'ai fait une résidence personne âgée. Puis j'ai vraiment trippé là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé le monde. Puis c'est là que j'ai dit, je me développe carrément juste sur le multilogement, puis les résidences pour personnes âgées, puis le commercial aussi. Donc, j'ai vraiment... c'est là-dessus que j'ai vraiment pointé ma business. Puis, écoute, ça l'a levé. J'ai mis les efforts pour, puis ça l'a vraiment levé. À un certain moment donné, après un tour de roue, ben toutes les références de mon bureau rentraient beaucoup. Les références externes aussi de d'autres bureaux de Centre hypothécaire Dominion rentraient. Donc, je suis monté à Vancouver chercher l'entité commerciale de Centre hypothécaire Dominion. Et puis, eux autres ont reconnu tout de suite tous les dossiers que j'avais de fait. Ils ont comme vu l'expérience, l'expertise que j'avais. Puis, dans le fond, ils m'ont octroyé la franchise commerciale de Centre hypothécaire Dominion.
OK. Tu vois, toi, que c'est le siège social à Vancouver. Fait que t'es allé chercher la franchise pour le Québec, pour Dominion.
Exactement ça. Puis à un certain moment donné, ben les architectes hypothécaires se sont fait acheter par Centre hypothécaire Dominion, mais ils voulaient garder leur bannière. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle groupe commercial. Dans le fond, c'est qu'à la base, c'était Centre hypothécaire Dominion Financement commercial. Puis après ça, c'est devenu groupe commercial pour vraiment être neutre avec les architectes hypothécaires puis les Centres hypothécaires Dominion. Okay. Donc, c'est ça.
Parfait. Fait qu'en étant groupe commercial, ben tu deviens un peu l'entre-deux puis le porteur des deux bannières aussi. Là.
Exactement. Ah, ça, okay. C'est plus de 300 courtiers résidentiels là, avec lesquels je fais de la business. Je te dis pas que je fais de la business avec toutes les 300, mais quand même, vraiment, un bon 7500 certains qui m'envoient beaucoup de dossiers. Là.
Puis c'est essentiellement des dossiers de multi-résidentiels. Quand tu me disais, Ardon, toi, t'es le chirurgien de ça. Ça veut dire que
exactement.
Si on dit groupe commercial, parce qu'on se parlait que c'est très large, qu'on parle de commercial. Mais
c'est ça. J'ai vraiment pointé ma business. À un certain moment donné, j'ai développé l'expertise dans le multi-résidentiel. Puis, tu sais, en ayant l'accréditation SCHL, ben tu sais, drette là, il y en a pas beaucoup au Québec qui ont cette accréditation-là. Puis, j'ai vraiment vraiment focusé ma business là-dessus. Puis, c'est ça qui... C'est vraiment là-dessus que je suis le meilleur. Puis, tu sais, je suis capable d'en faire du commercial un petit peu comme un ophtalmologiste a suivi ses cours de médecin pour savoir si t'as le genou brisé ou quelque chose de même. Mais sa force, vraiment, c'est les yeux. Ben, moi, ma force, c'est vraiment le multi. C'est là que je fais une différence parce que, tu sais, à un moment donné, je suis capable de... Je suis capable de jouer au prêteur aussi à l'intérieur. Je suis capable de dire, bon, ben c'est ça le take-out, c'est ça le plan de sortie, c'est ça qu'on va financer. Puis c'est vraiment la scène près, puis je me trompe pas. Là.
T'as un rôle de conseiller.
Vraiment.
Aussi au travers de ça, qui est peut-être moins propice à ça quand c'est vraiment du financement résidentiel. Tandis que là, t'accompagnes, t'es presque partenaire finalement avec ton client.
Oui, vraiment.
Emprunteur, là.
Puis c'est ça. Puis tu sais, on se trompe vraiment pas sur les valeurs, ouais. Pis tout ce qu'on dit. T'sais, on va faire des scénarios pessimistes avec le client, mais tu sais, cette année encore, c'est arrivé peut-être bien 3% du temps aussi qu'on a été au scénario pessimiste, puis le client savait qu'est-ce qu'il en était.
Il était déjà au courant dès le départ qu'il était à risque comme fois 1000.
Exactement ça. Pis,
moi, une question qui me trotte en tête, quand on dit correspondant à CHS, ça veut dire... Tu sais, ça veut dire quoi dans les faits? Parce que tu dis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs qui se rendent là. Comment on fait? C'est qu'on a trouvé la bonne adresse, on a trouvé le courriel, le bon courriel pour envoyer le dossier à bonne place.
Ce qui est différent, c'est qu'à un certain moment donné, il faut que tu fasses tellement de volume avec une institution financière que eux te reconnaissent en tant que spécialiste, puis ils disent vraiment, sont prêts à ce que tu portes le nom pour aller chercher l'accréditation au nom de la SCHL. Donc, quand tu soumets un dossier à la SCHL, si tu ne le soumettrais pas de la bonne façon, tu défais le nom aussi de leur côté, puis le cote au niveau de la RCHL, leur crédibilité. Donc, quand à un certain moment donné, ça fait assez de dossiers, eux autres te reconnaissent, puis ils t'accréditent. Chose que j'ai obtenue à peu près en 2017, à ma deuxième année, là, deux, troisième année.
C'est comme si tu... Skip un peu, si tu veux, le banquier, puis tu passes en relation directement, bien que ton prêt soit tenu vraiment dans l'institution bancaire, mais toi, tu communiques directement avec la SCHL.
C'est ça. Tu sais, au lieu de, mettons, aller faire affaire avec un directeur de compte, qui son directeur de compte, des fois, va avoir un boss pour passer son dossier, qui le boss, des fois, va le passer au département de crédit. puis des fois le département de crédit à Toronto, donc il y a beaucoup de backfort qui se perd, puis beaucoup de temps. Ben, ouais. Moi, directement, c'est moi qui monte, c'est moi qui souscris le dossier de A à Z, c'est moi qui vois les points forts, les points faibles du dossier. Je le recommande directement à un souscripteur de la SCHL. La SCHL nous revient en disant « Ok, parfait, on a accepté le dossier ». Moi, une fois que j'ai mon attestation, une fois que le dossier est accepté, je me reviens de bord, puis je fais affaire avec une trentaine d'institutions financières différentes, des compagnies de fiducie, des compagnies d'assurance, des banques, les caisses. C'est vraiment le banquier qui a le plus fin, là, puis qui a le coût des fonds le plus bas au moment que je sors l'attestation, c'est lui qui va souvent remporter la course.
Okay. Puis, c'est lui qui t'a donné le contact à la SHL initialement, mais après, ça t'oblige pas à revenir toujours vers un seul prêteur.
Non, tu peux c'est ça, exactement ça. C'est quelque chose qu'il fallait que je spécifie. Mais tu sais, au départ, l'entente n'était pas ça. À un certain moment donné, c'est devenu l'entente parce que il pouvait pas m'offrir toujours qu'est-ce qu'il y avait de mieux. Puis moi, j'étais plus. Tu sais, faut que je reste impartial avec le client. Puis faut vraiment que j'offre qu'est-ce qu'il y a de mieux. Fait qu'à un certain moment donné, aller juste avec une institution financière, ben c'est pas bon. Puis je trouve que malheureusement, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le courtage hypothécaire parce que tu sais, il y a des affinités qui se créent à un certain moment donné quand tu envoies toujours ta business à une place, puis ça devient toujours de plus en plus facile. Par contre, de ce côté-là, c'est une chose qui est importante quand tu parles avec ton courtier hypothécaire multirésidentiel, c'est vraiment de poser la question. Tu as fait des prêts avec combien d'institutions financières dans la dernière année?
Tu fais régulièrement affaire avec qui? Pour pas qu'il finisse à dire qu'il est toujours avec le maire.
Cette année, justement, on parle souvent, on voit souvent People Trust. People Trust étant ceux qui m'ont accrédité, puis aussi MCAP, une autre compagnie à Toronto.
Ça, c'est des banques virtuelles.
Exactement ça. Puis comme la MCAP, c'est la caisse de dépôt qui est en arrière de ça du Québec. Okay. Donc, c'est quand même des institutions financières très réputées avec un bon nom, puis ils ont des taux d'intérêt étant donné qu'ils titrisent, mais sont beaucoup plus agressifs. Mais par contre, cette année, ça s'est avéré faux.
Ouais. Trust a pris une bonne pause en avril.
Là, je te dirais. Puis ça s'est reflété tout le long de l'année, même encore aujourd'hui. Ils ont pas. Dans un gros dossier de 20 millions, là, ils ont réussi à me faire une cote quand même dans le sens du monde, mais je te dirais que j'étais capable d'avoir mieux ailleurs là, aussi. Là.
Fait que ça bouge beaucoup les tendances.
Vraiment, cette année, c'est ça qu'on disait, moi, puis Jeff, hier, on en parlait. Hier, on a changé 6 fois de prêteur différent cette année, à savoir où c'est qu'on a envoyé notre business.
Okay.
Fait que, tu sais, 6 fois, on n'a jamais vu ça. Là. Moi, des 5 dernières années, je te dirais que ça jouait à 3. 3 prêteurs à peu près, puis c'était tout simplement ça. Mais là, vraiment, ben, tu sais, à ce temps, une fois que j'ai mon attestation, j'envoie une liste de questions au banquier. Bon, ben, c'est-tu ton notaire? Est-ce que ton premier paiement, il est obligé d'être le premier du mois? Est-ce que tu es obligé d'avoir une assurance-titre? Est-ce que...
Avec toutes les questions de qualification auprès de l'institution financière, où ce qu'on devrait, nous, avoir des réponses, ou ce qu'on apprend les réponses en signant notre acte d'hypothèque, ben toi, tu les as en amont. Là.
Exactement ça.
Fait que ça, c'est quand même puissant, là, parce que tu sais souvent, on va...
Faut que ça guide un peu ton choix, pas juste le taux.
Ben oui, puis...
Ça se limite au taux. Là.
Mais plusieurs personnes vont attendre seulement, c'est quoi le taux, puis de quelle façon qu'on va procéder, puis les clauses de sortie sont vraiment jamais mentionnées, de quelle façon que ça va être négocié, c'est jamais mentionné non plus, fait que c'est quand même important.
Puis souvent, ben tu sais, justement, avec les compagnies fiducie ou quelque chose comme ça, ton coût d'assurance habitation va être un peu plus élevé à cause des normes qu'ils demandent. Tu ne seras pas dans une zone inondable, ils vont te demander d'être assuré bord en bord 100% zone contre les inondations. Ouais. Il y a plusieurs clauses comme ça que habituellement, il y a beaucoup de personnes qui y retirent pour enlever des frais sur les frais d'habitation, mais eux autres n'acceptent pas, étant donné que le prêt est revendu, ben il faut qu'il y ait zéro risque avec les investisseurs. Mais ça, c'est une chose justement que eux autres, souvent, la plupart des clients se font rentrer un petit peu à la dernière minute. Mais tu sais, quand tu es vraiment, vraiment impartial, puis que tu envoies ça à ton client, puis c'est important parce que souvent, les institutions financières, les compagnies de fiducie comme ça, rémunèrent les courtiers hypothécaires.
Ouais.
Donc, souvent, il y en a beaucoup qui sont portés à dire hey, moi, je te charge pas de frais. Par contre, l'institution financière. Exactement ça. Donc, mais c'est pas la bonne façon parce qu'au bout de la ligne, anyway, tu vas le payer dans ton taux d'intérêt. Ah ouais, c'est mieux de payer ton courtier upfront.
Ouais. Puis savoir ça pourquoi tu payes.
C'est ça, exactement ça. Ça.
Mais moi, je l'ai vécu cette année, l'année passée avec People's Trust, justement, où la taxe de mutation est prélevée tout de suite chez le notaire.
Oui. Oh,
OK.
Effectivement.
On a un petit deux minutes déjà là. Puis on va aussi toujours prélever tes taxes municipales, c'est nous qui va les payer. Ah, OK. C'est bon. Tu sais, tu l'apprends au final, tu sais, au net de l'année, tu reviens au même. Là, je veux dire, ça te coûte pas plus cher, mais. C'est plus agréable si tu as déjà screené ça d'avance puis t'en es conscient.
Et tu sais c'est quoi tes termes, tes conditions là.
C'est exactement ça.
C'est pas à cause que c'est pas les éléments qui auraient fait peut-être en sorte que tu aurais pas
non, exact.
Pris les termes puis les conditions, mais
non,
de le savoir.
Le fait que tu le passes d'avance toi puis que tu le présentes au client, ça pourrait jouer dans la balance ou il pourrait dire par rapport à ma liquidité disponible au moment de l'achat, ben je vais favoriser un petit point de taux plus élevé, mais je veux garder, tu sais.
Exactement ça. Puis l'inverse c'est aussi vrai, tu sais, souvent on va faire le calcul puis même si tu payes un peu plus d'assurance, ben au bout de la run, t'es vraiment regagnant.
Ouais.
Sauf que si le client le sait pas tout de suite puis il l'apprend à la fin, tu vas le voir, tu vas l'apprendre à tes dépens.
Oh, puis définitivement, puis tu sais, quand on dit de faire affaire avec un professionnel, faire affaire avec un courtier hypothécaire, que ça l'amène des résultats supplémentaires, puis oui, ça a un coût, mais...
Une plus-value aussi.
Quand même, hein? Tu sais, la plus-value est donc importante à avoir là-dedans. Écoute, Denis, ça va vraiment vite, nos segments. On est obligé d'aller en pause.
Okay.
Mais tous nos podcasts ou nos enregistrements sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados, mais surtout sur notre site Internet, jeanfrançoismorin.ca. Dans la section médias, vous avez accès à tous nos partenaires qui ont passé. On a tout près de 100 podcasts disponibles. C'est quand même malade.
Cool.
Je te remercie, Denis. On revient tout de suite après la pause.
CJMD.
Le retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. Et aujourd'hui, on est avec Denis Nadeau, courtier hypothécaire chez Groupe Commercial. Super important, juste avant qu'on redébute notre nouveau segment. Présentez-vous aujourd'hui aux Galeries Chagnon pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Ils vont collecter vos dons. Il faut pas manquer la fin de nos chroniques aussi parce qu'on a Copy Management qui est ici avec nous. Puis la saison 6 qu'on va avoir de la bulle immobilière, vraiment cool. On va avoir 24 épisodes pour partir du début d'un processus d'investissement immobilier jusqu'à la détention puis l'opération de l'immeuble. Puis on passe ça en 24 principes de base en investissement immobilier. Fait que ça va être vraiment très cool. En janvier, il ne faudra pas manquer la bulle immobilière. Denis, on a parlé juste avant la pause de l'importance d'un bon courtier hypothécaire, de pouvoir avoir un spécialiste derrière nous qui va pré-filtrer les conditions, les termes, puis s'assurer que qu'est-ce qu'on va avoir comme financement va répondre à nos besoins, mais surtout répondre aussi à nos sorties, parce qu'on va vouloir sortir de tout ça. Mais il y a eu une bombe qui est sortie en mai dernier. La SCHL a fait quelques mises à jour, puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le topo de qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça.
Oui, dans le fond, à partir du 1er mai, la SCHL a envoyé un communiqué comme quoi que les retraits d'équité ne seront plus possibles. Les retraits d'équité purs. Donc, je prends, je fais mon retrait d'équité, je mettons, j'ai un prêt de 500 000 sur une propriété qui envoie 1 million, je refinance à 85 % 850 000 moins 500 000, ton 350 000 qui te reste, tu le prends, puis tu décides de t'acheter un bateau, tu décides de partir dans le sud ou faire du placement, tout simplement. Ben, à ce moment-là, eux autres n'acceptent plus ça. Donc, là, il faut vraiment que ça soit associé à l'immobilier. Donc, associé à l'immobilier, c'est quoi? C'est assez large, mais dans le fond, il faut que ce soit soit une rénovation de tes propriétés existantes, les propriétés que tu as. Soit tu bâtis une nouvelle propriété, soit tu achètes un nouveau terrain. Qu'est-ce que je pourrais oublier?
Soit tu peux acheter un
soit tu réinvestis un nouvel immeuble.
Ouais, c'est ça, un nouvel immeuble. Une
exactement
nouvelle
ça,
d'achat.
Un nouvel achat, ben oui, définitivement.
Ouais.
Puis dans le fond, ça, ils voulaient mettre la main là-dessus, ils voulaient contrôler ces retraits d'équité-là.
Puis de quelle façon qu'on vient qu'à contrôler ça? Parce que ça devient difficile. Ouais. On est en train de vouloir sortir de l'équité sur notre immeuble, mais il faudrait déjà avoir une promesse d'achat sur un autre immeuble pour faire l'acquisition de l'autre. Puis de quelle façon que c'est géré? Il ne doit pas avoir grand monde qui veut se mouiller là-dessus. Là.
C'est très difficile. Puis quand on pose des questions, on a énormément de réponses de politiciens.
Pis encore 7 mois plus tard.
À 7 mois plus tard c'est aussi. Puis c'est un petit peu plus cadré que ça l'était. Mais je vais juste partir un petit peu à partir du mois de mai l'an dernier. Les directives qu'on avait eues, c'était si ton prêteur n'est pas accrédité à la SCHL, ben techniquement, on ne peut pas le payer. Donc, si tu sais, toi, t'aurais été un petit vite, tu dis, bon, ben, un mois avant de faire mon retrait d'équité, moi, me prendre un lien avec un prêteur privé que je connais, lui, il rentre un 300 000 là, parfait, mon retrait d'équité sert à quoi? Bon, je paye le 300 000, une radiation, c'est beau, c'est réglé, tout le monde n'en parle plus. Bon, ben, eux autres, ils ont dit, pour faire ça. Hey, wow, t'as peu, là. Faut que ça soit un prêteur accrédité. Fait que le prêteur accrédité, nécessairement, il voudra pas, faire de nick-nack avec...
Des petits mouvements d'argent. Ouais.
C'est ça. Il voudra pas faire du niaisage un peu. Il va respecter les normes. Et là, ce que ça a créé, ben, les balances de prix de vente. Souvent, là, 5 ans, toi, tu t'es entendu avec ton vendeur, puis là, le plan de sortie était un refinancement SCHL. Ben là, à ce moment-là, eux autres n'acceptaient pas. Puis ils étaient stiff là-dessus. Ils disaient non, regardez, on peut même pas payer un privé. Donc là, ça a fait énormément de. Tu sais, tout le monde a fait voyons donc, ça n'a aucun sens. Ah, il y a beaucoup de clients qui, eux autres, qui tombaient dans la shit, comme on veut dire. Ah, là. Puis ils sont rétractés, puis sont revenus sur le norme. Puis à cette heure, ben là, dans le fond, si ils voient que ça n'a pas été. Ça n'a pas été placé là, justement, là, pour faire ton retrait d'équité camouflée, ben ils vont l'accepter, c'est sûr qu'ils vont l'accepter. Donc, vois-tu, ça, c'est une norme qu'au départ, ils avaient mis, ils sont rétractés. Là, aujourd'hui, quand on arrive, puis je me la fais souvent poser au téléphone la question, quand les clients m'appellent, le retrait d'équité, est-ce que je peux le faire? Ben techniquement, il y a des prêteurs virtuels qui sont beaucoup moins stiffs, qui acceptent de te redonner l'argent, mais, tu sais, techniquement, ils veulent savoir c'est pourquoi. Mais tu sais, ça finit juste là. T'sais.
Quelques questions, mais pas le gros interrogatoire.
Exactement.
Dans la pratique,
ça.
Là, c'est surtout la théorie. Dans la pratique, on navigue encore dans l'application partielle de ces normes-là.
C'est ça. Puis, comme mettons...
C'est la discrétion des banquiers en tant que tels, chacun d'eux.
Vraiment.
Dans le sens que la SCHL ne garde pas un œil ou ne surveille pas ou inspecte pas chacune des transactions individuellement.
Non, puis la SCHL, en plus de mettre une norme qui est vraiment dure à gérer... Ils la remettent dans la barque des prêteurs.
C'est
donc, c'est la responsabilité du prêteur, un peu comme ta phase environnementale, que ne statue pas dessus, mais c'est vraiment eux autres qui vont dire... c'est vraiment le prêteur qui a la responsabilité de s'assurer qu'il y a un titre conforme...
C'est une directive, mais c'est pas contrôlé par eux.
C'est ça. Puis, ce que je voulais rajouter comme point, c'était... Bon, j'ai-tu perdu mon idée?
On parlait de...
Mais c'était que... OK, c'est que quand on parle encore à des banquiers... Puis on lui demande, bon, ben regarde, ça va être pour les rénovations de tel bloc. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on va le dire à SCHL. Ouais, mais comment tu vas administrer ça? Est-ce que tu vas le mettre dans un compte en fidéicommis?
Oui.
Ben, Drette, il dit, ah, ben, regarde, depuis le début, j'ai pas eu à le faire vraiment. Ouais, là, fait que, tu sais, regarde, ça va être correct.
C'est l'humain à son meilleur, là. Il y a un vide, on va se faufiler dans le vide, là.
Exactement.
Mais, tu sais, dans le résidentiel, on le vit. Récemment, on a eu une problématique sur une propriété. On a eu une promesse d'achat. Puis, écoute, c'est un duplex, là. On est loin, là, d'un multilogement, etc. Puis, dans la contre-proposition, il n'y a pas d'inspection. Il y a juste une clause de visite. Puis, nous, pour se protéger, parce qu'il y a une renégociation suivant la visite, ben on dit, écoute, il y a eu tel élément au niveau de la toiture, tel élément au niveau du balcon, terrasse qui a été installé de façon artisanale, il y a eu l'entrée du sous-sol, etc. Puis là, tu sais, moi, j'appelle le courtier avant de faire les documents, puis j'ai dit, écoute, on va se faire battre avec la SCHL. Là. J'ai dit, c'est sûr et certain qu'ils vont demander quasiment qu'un ingénieur vienne voir l'étendue des travaux. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a divulgué les informations comme de quoi que suite à la visite, considérant certains éléments, la toiture, etc., etc., ben qu'on n'a pas mentionné les défauts ou les problèmes ou quoi que ce soit, mais on a mentionné qu'il y avait quelque chose qui était sur place parce que nous, on veut se protéger autant les parties pour pas avoir une renégociation par la suite sur ces éléments-là. Puis la SCHL a dit non, nous, on va t'envoyer un inspecteur pour valider ces informations-là. Puis quasiment l'ingénieur qui va venir confirmer que c'est correct. Puis on était comme... Ah,
c'est
ben
ça que
ouais.
Tu voulais pas.
Tu sais, c'est compliqué. Puis on a mis ça simple là, pour que ça soit clair. Mais encore là, tu sais, on vient de soulever un flag où ce que là, ils disent non, on veut vraiment s'assurer que tout soit conforme. Là.
Okay. Ouais.
C'est quand même fou.
Mais c'est comme
si je continue dans les nouvelles normes, mettons, de la SCHL, qui sont quand même importantes, il y en a une nouvelle justement à partir du 15 janvier où c'est que à partir de 7 logements et plus, aller jusqu'à 48. Me semble que c'est à 48, aller jusqu'à 48 portes, dans le fond, et ça va prendre absolument un rapport d'évaluation d'une firme, dans le fond, d'une firme indépendante. Donc, un petit peu comme dans le 5 et 6 logements, dans le fond, il faut que tu mandates ton évaluateur qui vient dire ta valeur. À ce moment-là, ça va être la même chose à partir du 7 logements et plus. Puis ça, c'est une règle que je trouve qui va engendrer des délais supplémentaires. Malgré qu'à la SCHL, eux vont avoir moins être au BAT,
on va moins la gestion du risque, de la valeur de ce
qu'ils... C'est ça, exactement. Ça. Ils vont être capables de se baquer avec quelque chose.
C'est d'après toi, c'est pour ça qu'ils le font.
Je pense que oui, puis aussi l'histoire du COVID au travers de tout ça, ben, tu sais, dans la dernière année, les visites, dans je te dirais que
dans sur les
une centaine de dossiers, je te dirais qu'on doit en avoir eu, il y en a-tu 15 qui ont eu des visites? Je pense que c'est juste ça, là. Fait que, tu sais, eux autres, étant donné que les évaluateurs, eux, ils ont à se présenter sur place, puis il faut qu'ils l'écrivent dans le rapport.
Mais même pas. Cette année, moi, en tout cas, moi, j'ai fait faire des évaluations qu'ils peuvent le faire à distance.
Ils viennent photo, voir là. L'extérieur, prenez des photos, envoyez-nous-les, puis...
That's it, là. Moi, j'essaie quand même de les faire rentrer dans les logements, là. Mais, je veux dire, tu sais, en prévenant les gens, mais ça se peut quand même. Aussi.
Mais, tu sais, tu dis que les évaluateurs agréés vont pouvoir... tu sais, que les vendeurs vont pouvoir utiliser leur évaluateur agréé. Est-ce que ça se peut... oui, ça peut augmenter les délais parce qu'on va créer un bouchon là, puis un embouteillage là, avec tout ça, parce que là, il va y avoir beaucoup de demandes. Il n'y aura pas assez de ressources pour le faire puis s'ajuster à tout ça. Tu sais, sûrement que les compagnies d'évaluation sont en train de prévoir janvier, justement, parce qu'il va y avoir une forte demande.
C'est le temps d'aller étudier en évaluation. Ah,
ouais, c'est ça, le taux de placement est excellent. Là.
J'ai justement été rencontré, moi, mon partenaire Jeff, une firme assez réputée à Québec, puis en les avertissant, on disait là, nous autres, c'est une firme d'évaluation à qui on faisait beaucoup de business. On dit là, mettez-vous prêts, là,
soyez prêts,
ça va être épouvantable. Puis moi, je veux pas avoir à retarder mon processus parce que tout est dans le jus. Là. À certains moments-là, je vais aller ailleurs aussi sans vouloir. Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas donné énormément de délais. Là. C'est une annonce qui ça fait.
C'est ça. Depuis, trois semaines.
Ben, c'est ça. Fait que, deux mois d'avance, à peu près. Là. C'est pas un gros délai pour se revirer dans une firme et dire on engage quatre personnes, on les forme, ils vont être prêts.
Puis, même tu parleras à toutes les firmes d'évaluation, ils en ont par-dessus la tête. Là.
Déjà actuellement. Là.
J'avais une étude de marché puis un projet intégré de 42 unités, mais 6 x 7, j'ai demandé... On négocie plus le prix, là, on négocie les délais. Là.
La disponibilité.
c'est ça. Début décembre, ils m'ont donné 19 janvier. Puis après ça, pour une résidence personne en jeu, ben, ils m'ont donné tout de suite c'est 20 février.
Okay? Ah ben ouais, c'est loin, là. Ben,
c'est ça.
Loin, déjà.
Ben, c'est avec toi que je veux faire affaire parce que t'as une crédibilité, OK?
Ouais.
Mais il faut que j'accepte tes délais aussi. Là,
c'est déjà que tout le reste des délais à l'interne de la SCHL sont de plus en plus longs en général, là.
Ça, parce que souvent, c'est des délais justement pour bâtir.
Ouais.
Fait que là, ça te prend ton rapport d'évaluation. Après ça, il faut que tu partes à SCHL. Fait que là, tu voulais partir ton projet au mois de mars. Oublie ça. Là. T'es pas avant le mois de mai là, si t'attends ton financement.
Ouais.
Fait que des fois, il faut que tu trouves des alternatives.
Puis, pour revenir sur l'évaluateur agréé, est-ce que ça peut laisser une porte de sortie, par exemple, que le vendeur ou la personne qui va être propriétaire de l'immeuble à revenus va pouvoir tweaker les chiffres avec son évaluateur agréé pour pouvoir avoir une valeur supérieure de qu'est-ce que le marché va être prêt à prendre, puis que la SCHL vient payer 85% de ça, puis qu'il y a un gap de retrait d'équité qu'il va pouvoir faire avec ça?
Naturellement, je veux aussi que tu t'en vas. C'est sûr que veux pas, en tant que n'importe quel investisseur, c'est lui qui paye son évaluateur.
Il va demander sa commande. Là.
C'est sûr qu'il va demander beaucoup plus son évaluation. Là, à l'époque, je faisais affaire avec des firmes d'évaluation en conventionnel, avec des prêteurs que conventionnels, c'était absolument eux autres qui donnaient les directives à leurs évaluateurs. Ben, tu sais, on n'est pas là, mais c'est pas pour rien que c'était eux autres qui donnaient les directives parce qu'ils voulaient pas se faire.
Ils géraient leur risque.
Ils voulaient se protéger leur risque aussi, là.
Ouais, c'est ça. Mais reste que la SCHL à l'interne, comme on dit, ils vont pas pour autant prendre les dossiers les yeux fermés.
Non, parce que.
Énormément de barèmes, puis
comme
ils
on
savent.
Dit, c'est eux autres qui ont le plus de data. Mais, tu sais, la SCHL, là, je vais être franc avec vous, là. Pour le vivre justement dans un dossier là, cette semaine justement j'ai eu lundi un retour, j'avais 1,2 million de moins que qu'est-ce que je voulais dans le dossier. J'ai fait voyons donc, ça n'a juste pas de sens. J'ai dit dans quel marché que tu es, le marché c'était à Québec. J'ai dit, t'es-tu dans le marché de Trois-Rivières? Parce que des fois, Trois-Rivières est un petit peu plus haut sur les cap rates. J'ai dit, ça marche pas. Je faisais une joke un peu en disant ça, mais j'étais comme à des années-lumière. Elle me parlait d'un cap rate de 5,38. J'ai dit, ça se peut pas, là. Je vois pas aussi que...
T'as figé ça, ouais.
Fait que là, on a énormément de data dans nos ordinateurs, fait qu'avec beaucoup d'attestations. Fait que, tout de suite, j'ai envoyé 7 dossiers comparables, tac, tac, tac. Ils sont revenus et ont accepté mon 4,65 de cap rate. Ouais. Donc, ils ont reconnu ma valeur. Mais tu sais, on était loin, là, 5,38 à 4,65.
Il y a un peu de politique là-dedans.
C'est énormément.
C'est ça, pareil.
Puis c'est spécial parce que...
D'où l'intérêt que toi, tu sois là, comme tierce partie, un autre client qui est peut-être pas habile à faire ça.
Et puis, comment qu'on va être capable de sortir, justement, 7 dossiers pour défendre notre cap rate?
Ça, hein? Comme client, tu les as pas, ces dossiers-là.
Ben, d'où l'importance que j'ai d'aller chercher un bon courtier hypothécaire qui a des bons réflexes, puis tout de suite, elle brûle pour point, t'acceptes pas en disant, hey, oui, je vais te revenir. Non, ouais. Tout de suite, sur le coup, c'est fait, ça marche pas pantoute, là, puis on est à des années-lumière de se comprendre. Puis là, tout de suite, tu voyais que la fille a commencé. Si j'avais pas pogné une senior, je le sentais.
Ouais.
Mais quand même, ça reste que tu prends des
Mais toi, t'es dans la game, t'es sur la glace, fait que t'es prêt à répondre direct.
Je suis dans le marché tout le temps, tous les jours. On envoie à peu près 4 à 5 par semaine à CHL. Fait que tu sais, on sait ce qu'on s'en va, puis on est professionnel.
Mais de façon générale, tantôt, je parlais des délais. Dans l'année, justement, 2020 qu'on vient de passer, ça, on est rendu à peu près à quoi? Tu sais, c'est toujours le talk of the town, là, mais en termes de délais à CHL pour un multilogement.
Juste te donner un exemple. Dans le fond, un dossier, là présentement, l'attestation est sorti le 8 octobre en moyenne, non? C'est du 8 octobre. C'est spécial parce que Montréal-Québec, pas pareil non plus.
Ouais.
Je trouve Montréal, ça sort plus vite encore que Québec. Fait que même s'ils en sont plus débordés, je sais pas, je trouve que ça va plus vite encore à Montréal. 8 octobre, attestation, je vais la recevoir vendredi. Qui va être là? On est rendu quoi là? 11 décembre. Fait que c'est 2 mois là.
Okay. Mais c'est quand même pas si mal. Parce que nous, on a un dossier où justement il y a eu de la contamination, on a parlé tantôt. Puis on est à 6 mois de délai de traitement, là, tu sais, entre le dossier complet, etc. Puis, tu sais, le temps que le dossier se fasse approuver, soit déposé, l'analyse, puis après ça, que le prêteur accrédite le prêt, etc., là, ça a pris quand même un délai de 6 mois. Puis on arrive sur la fin de notre délai, puis là, ça vient mettre une pression
sur les taux,
sur les acheteurs, parce que là, ils disent, crif, on avait 6 mois pour faire ça. Puis là, on est un peu serré. Puis malheureusement, tu sais, on n'était pas avec vous. Fait que peut-être ça aurait été un peu plus tête. Mais écoute...
Mais pour prendre la défense de probablement ceux qui ont travaillé, même moi, je l'ai vécu dans des dossiers où c'est que, tu sais, j'avais envoyé ma série de questions une fois que j'avais mon attestation. Puis mon prêteur, qui était le plus agressif, était à l'époque 1,68, fermé 10 ans. J'étais arrivé avec l'attestation au début d'octobre, le 1er octobre. Puis j'ai notarié le 9 décembre. Ouch! Ouch, j'ai mangé une claque d'en face là, tu sais. Ben, beau être professionnel, mais...
Il y a une partie que tu contrôles pas, là.
C'est vrai de ça, mais tu sais, j'en reviens pas. Un déboursé 2 mois après, alors que tout est fait, là. Tout est réglé, tout le monde, on s'entend. Je pense que peut-être que je travaillais pas avec la bonne personne, puis ça, je m'en suis rendu compte, ça va juste se changer.
Ouais.
Mais...
Il y a beaucoup d'intervenants dans le processus, pareil. Tu sais, les notaires aussi, c'est connu, c'est une année qu'ils sont débordés.
Justement, tout le notaire nous a retardés dans la transaction, c'est ça qui a fait ça aussi.
Ben oui. Écoute, tout le monde, on est dans une année extraordinaire où on est coincé, puis tout le monde veut que ça aille vite. Puis malheureusement, tout le monde est au bout de leurs limites aussi. Là. T'sais, on n'a pas de ressources, on n'a plus de plage horaire. On a stretché notre 40 à 60 heures. Ceux-là qui travaillaient 60, ils ont stretché à 80. T'sais, c'est fait que tout le monde...
Dans l'immobilier, c'est une très bonne année de façon globale. Disons,
sur l'ensemble de général, toutes les marchés.
Pour tous les intervenants, il n'y a personne qui était sur le banc. C'est
juste donner un exemple de nous autres personnellement. L'an passé, j'étais super content de notre année. On a fait 90 millions de financement. Puis cette année, on a déjà 245 de déboursés, 275 d'autorisés qui va se faire avant la fin décembre. Puis on pense on veut pogner le 300, là, juste pour les chiffres.
Ah ouais, pour l'objectif.
Pour l'objectif, mais c'est ça.
Mais ça témoigne que c'est une année...
C'est une année triple.
Malgré les règles qu'on dit que la CHL, tu sais, je veux dire, ça ralentit pas les investisseurs.
Non.
C'est ça qu'on constate quand même, là.
Puis tu sais, on devient aussi avec des conditions intéressantes aussi, les taux d'intérêt plus bas, puis tu sais, ça devient quand même intéressant, puis tu sais, les gens qui peuvent pas sortir, ben dépensent pas, fait que là, ils ont une économie forcée, fait qu'ils veulent placer leur argent d'une différente façon. Il y en a plusieurs qui vont commencer avec des petits plex, puis c'est super correct aussi, mais ceux qui étaient dans des petits plex, ben là, peut-être qu'ils vont... switcher pour du 5 logements et plus, etc. Fait que c'est quand même super intéressant. Denis, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On est obligé d'aller en pause. On revient tout de suite après la pause.
CJMD 96.9.
On est de retour à la bulle immobilière avec notre invité Denis Nadeau de Groupe Commercial, courtier hypothécaire. Puis pour vrai, ça fait toute une différence de faire affaire avec des professionnels. Juste hors d'onde, avant qu'on commence le segment, on voulait faire un cotype. On est 3 partenaires, on veut acheter un 6 logements, 600 000, juste pour mettre des chiffres faciles. Ouais. On va le financer en conventionnel pour par la suite là faire des travaux. Puis, un coup que les travaux vont être finis, ben la valeur de l'immeuble ou la valeur économique devrait sortir aux environs 900 000. T'sais, on donne un peu le portrait de vers où qu'on s'en va. Puis j'aimerais ça, toi, en tant que courtier hypothécaire, que tu puisses nous orienter sur comment monter notre dossier, comment que le financement va se faire, puis comment qu'on va arriver à la fin pour avoir un take-out par rapport à tout ça, puis qu'on puisse le prévoir par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, pour mettre ça simple, 600 000 avec 25 % de mise de fonds, 150 000, on est trois partners, on met chacun 50 000, on bête sur l'immeuble. Première des choses, comment qu'on monte notre bilan? Est-ce qu'on doit avoir 100 000 de valeur nette individuelle ou on doit avoir 100 000 de valeur nette collectif?
Bon, pour répondre à ta question, dans le fond, si on se fie un petit peu à la norme de la SCHL qui dit que pas mal dans, tu sais, même dans le conventionnel, là, les prêteurs vont quand même aimer ben, beaucoup cette règle-là, là, mais c'est tout ensemble, dans le fond. Donc, c'est assez facile. C'est rare que le problème du 25% d'actifs nets, là. Puis, pour, comment établir le 25% d'actifs nets? Bien, toute l'équité que tu as entre ton prêt hypothécaire puis ta
maison
ta
principale.
Maison. Donc, tu sais, il y en a plusieurs, des fois, qui ont peur un petit peu parce qu'ils se disent, bon, ben moi, je peux juste refinancer à 80%. Non. La SCHL va quand même considérer ton 100% moins ton prêt hypothécaire. Donc, si
tu as une maison de 350, tu as une hypothèque de 250, fait que tu as 100 000 de valeur nette.
Tu as 100 000 de valeur nette.
C'est 100 000 au minimum, sinon 25 %
Exactement ça. Aussi, si tu jouerais dans des plus petits montants, ben là, c'est 100 000 minimum là, qui veut
que... Okay.
Donc, tout ensemble. Fait, comment juste compter, juste rapidement, là, pour quand vous faites votre bilan, là, pour bien savoir comment la SCHL va le voir, bon, ben tes REER, veux pas, ils vont les compter à 50 % si tu as un terrain, ben, ils vont y aller à 50 % de la valeur marchande. Ensuite de ça, ben, placement, ça va être 100 % CELI, 100 % puis toute l'équité que tu as en immobilier, c'est la même chose. Pour ce qui est de tes compagnies opérantes, ça, c'est toujours une zone grise. Pis c'est souvent là-dessus qu'on va venir jouer quand il y en manque dans les gros projets. Tu sais, dans le fond, ils vont souvent prendre les BNR de ta compagnie. Là. Donc, des fois, tu essaies de venir créer une plus grosse valeur dans tes compagnies opérantes si des fois, il en manquerait. Mais habituellement, c'est plutôt rare. Là. 25% d'actifs nets est souvent rencontré.
Oui, puis surtout qu'à 3, là, c'est quand même plus compliqué. Là. On a besoin de 33 000 chacun pour faire en sorte qu'on ait 100 000 de valeur nette. Là, on...
ouais, dès qu'on a un actif, on a une certaine équité. Mais qu'est-ce qu'on doit amener d'autres dans le dossier, outre que notre bilan, parce que toi, c'est sûr que tu dois déjà passer ça avec ton client puis dire fournis-moi ça. Mais qu'est-ce qu'on doit préparer avant de regarder ce deal-là? Comme...
Ben, dans le fond, j'ai une liste préétablie, mais la liste préétablie, c'est vraiment simple. C'est tes avis de cotisation, prouver que tu n'as pas de solde à l'impôt, tes rapports d'impôt complets.
Oui.
Et s'il te plaît, pas scanner avec ton cellulaire page par page en photo.
Ouais. Demande à ton comptable. S'il vous plaît, demandez au comptable de l'avoir un PDF.
Ah, c'est numérique, c'est encore mieux. C'est là. Ça. Mais non, c'est juste parce que des fois, on le voit. Là, mais quand même, après ça, c'est tout ce que tu mets dans ton bilan. Techniquement, ça me prend la preuve. À part si tu me dis, dans mon compte courant, j'ai 2000, je m'en balance. Mais si tu me dis que tu as 100 000 en placement, s'il te plaît, envoie-moi le relevé.
Ouais.
Puis moi, je vais le mettre au dossier.
Puis est-ce qu'on t'envoie aussi les soldes de carte de crédit pour te dire, écoute, j'ai une carte de crédit de 10 000 puis elle est à zéro, on t'envoie notre solde à zéro?
Non, même pas.
Non?
Souvent, parce que moi, je vais sortir ton bureau de crédit. Okay. Je vais sortir ton bureau de crédit.
Tu vas le savoir pas mal si t'es à jour.
Fait que je vais le voir, puis tu sais... Ça se reflète, là. Tu sais, ça se reflète dans le dossier. À un certain moment donné, quand tu vois que le gars est à côté, souvent, il est à côté partout et tout. Là. Tu sais, c'est rare qu'il est semi à côté, là, le gars. Là. Fait que...
le gars, bon. Il est lousse, mais pas tant.
Lousse d'un bord, tête de l'autre.
C'est exactement ça. Puis, fait que, tu sais, juste pour revenir à ta question, peut-être le cas que tu voulais mettre, tu sais que tu achetais pour 600 000 un 6-plex, il y avait une mise de fonds de 150 000, ben, tu sais, ça change tellement, puis il n'y a vraiment pas un cas-type. Puis je prends comme exemple, juste dans ce cas-là, si ton gars, au lieu de, il n'a pas le 150 000, puis il aurait juste 15 % du 600 000, puis étant donné qu'il sait que ça prend de la valeur, bon, ben, il veut en mettre le moins possible, chose que
pour être dans le marché,
tu sais que tout le monde veut faire ça. Ouais. Ben, tu sais, il y a le financement privé aussi qui pourrait être une option. Tu sais, on va te financer à 85 % de ton achat, puis 85 % de tes rénaux. Donc, c'est une chose qui peut être faite. Là. Puis, tu sais, moi-même, mettons, là, on en fait du financement alternatif avec des clients. Fait que, tu sais, quand le dossier est bon, c'est une chose qu'on peut faire aussi. Mais on va y aller dans le conventionnel, traditionnel, où c'est que le client est quand même capable de déposer au moins son minimum 150 000.
Oui.
Puis, tes rénovations, souvent, on va te les financer à peu près aux alentours de 70 à 75, dépendamment du dossier, mais plus 70 %. Donc,
je pense que souvent, vous regardez, ou en tout cas, le prêteur regarde aussi le contexte des rénos. C'est-à-dire, ça se fait-tu avec un immeuble vide? Ça se fait-tu tranquillement, doucement, légèrement, un logement à la fois? Fait que c'est encore là son risque qui va
varier selon
dans le RPV.
C'est ça, exactement ça. C'est est-ce que tes revenus vont rester? Est-ce que tu vas toujours continuer à dégager un cash flow durant tes rénovations?
Ouais.
Bon,
c'est parce que les deux ont des avantages, puis les deux ont des inconvénients aussi. Tu sais, le fait de stripper ton immeuble, de le faire là, l'avantage, c'est que tu opères vraiment plus rapidement, puis tu es capable d'atteindre tes revenus beaucoup plus rapidement aussi par rapport à ça.
Comme investisseur, c'est ça qu'on cible. Comme
exact.
Prêteur, c'est pas mais vraiment c'est ça, ce qui est sexy.
C'est ça qui
là.
Est vraiment bizarre. Moi aussi, tu sais, quand mettons, on arrive pour prêter, ben souvent, j'aime pas mal mieux que le client ait son immeuble vide, là, pour être franc, là, tu sais, puis qu'il retape.
Tu sais que ça va aller vite, là.
Ben oui,
parce c'est un risque mieux. D'avoir des locataires.
Sauf que l'institution financière, elle, ben non, elle veut tout le temps s'assurer qu'il y ait une valeur dans le bloc. Tu sais, je trouve que des fois, il faut sortir du cadre un peu, puis ouais. C'est pour ça que penser autrement, c'est quand même assez encore
pertinent
important.
Pertinent là-dedans. Là. Ouais.
Okay. Puis, dans le fond, dans un scénario comme ça, on financerait, mettons, 105 000 de rénovation pour arriver avec un take-out. Tu sais que ta valeur, mettons, prendrait, mettons que ça monterait à 900 000. Bon, ben tu aurais mis 145 000. Donc, tu tomberais avec un take-out de 765 000. Fait que techniquement, tu te refais donner 15 000 à la fin. Là. Fait que tu sais, en immobilier...
On le finance de quelle façon? Tu sais, par exemple, on a un projet d'optimisation comme ça. On le prévoit sur une période d'un an. Fait que tu sais, notre conventionnel à 4,50, toi, tu nous suggérerais, par exemple, d'aller avec un de tes prêteurs, qu'on prendrait un terme d'un an avec un taux d'intérêt X.
Ouais.
Puis après ça, ben, on viendrait rajouter une tranche pour les rénovations. Est-ce que la tranche va se mettre directement avec le même prêteur ou on va avoir quelqu'un d'autre à l'externe qui va venir pallier pour nos rénovations?
Ben, si tu as déjà été avec une institution financière bancaire, tu n'auras pas le choix de continuer avec celle-ci.
OK.
Parce qu'il n'y a aucun prêteur, il n'y a aucun deuxième rang externe
qui va vouloir embarquer pour des rénovations.
Exactement ça. L'institution financière pourrait accepter que toi, tu décides de financer tes rénos. Donc, eux autres ne voudraient pas te le prêter. Ils pourraient accepter que toi, tu rentres avec un deuxième rang en arrière d'eux autres. Puis, si tu le divulgues, la plupart du temps, ils vont l'accepter.
Puis initialement, tout est dans la présentation aussi. Fait que la présentation de ton immeuble, ton projet puis la valeur finale, ben, tu sais, est déjà mise en avant-plan avec le courtier, qui le courtier va avoir fait son travail en amont avec l'institution financière pour rassurer tout le monde.
Exactement.
Puis après, c'est sécurisant aussi, ben, qu'ils connaissent la valeur de sortie, qu'ils sachent justement c'est quoi
qu'on s'en va.
Quand tu vas les rembourser, que tu vas le stabiliser, que tu vas arriver avec un prêt CHL plus élevé au final.
Exactement.
Faut que tu présentes le dossier dans son ensemble. Puis le qualitatif, on en parle souvent aussi, mais tu sais, qui t'es comme investisseur au niveau des rénos que tu prévois faire, avec quel partenaire, quel entrepreneur tu travailles, tu sais, toi, je sais pas si tu pousses beaucoup ça dans tes dossiers.
Oui.
Mettons un dossier ben typique
oui,
comme ça.
Oui, effectivement, t'as 185 portes, ou ben, c'est tes premières, puis tu t'embarques dessus dans un dossier de flip, t'as pas de partenaire qui l'ont déjà fait. C'est un tout autre dossier, là.
Ouais.
C'est vraiment, va falloir prendre un collatéral sur ta propriété, ben, tu sais.
On va prendre les garanties, là.
Exactement, ouais. Ça, tu sais. Mais pour revenir à... je voulais rajouter quelque chose, excusez-moi.
Parce que là, tu sais, on parlait de take-out, tu sais, la valeur finale est à 900 000, tu sais, on le refinance SCHL après notre année. Ouais. Fait que là, toi, à ce moment-là, est-ce qu'on va demeurer avec la première institution financière qui nous a prêté, fronter le 450 000 plus Renault, ou à ce moment-là, on va pouvoir revoir laquelle va avoir les meilleures conditions pour nous à ce moment-là?
Ben, habituellement, dans le fond, tu vas pouvoir vraiment renégocier là, ben, avec la SCHL, justement, tu vas redevenir indépendant. C'est sûr que si vraiment l'institution financière t'a vraiment fait une faveur là, à financer
T'es mieux d'entretenir ta relation.
C'est ça, exactement ça. Tu sais, je me le cache pas, on est courtier hypothécaire, mais des fois, ça arrive souvent qu'on va redire à nos clients, écoutez, restez avec votre institution financière, brisez pas la relation. Ils ont fait de quoi que j'aurais même pas été capable de faire dans ce cas-ci.
C'est ton premier, donne un coup de pouce, tu sais, à ton tour de leur en donner un, puis leur faire une faveur. Puis tantôt, même que ça soit le temps de renégocier, mais ça sera à leur tour de se mettre au bat, puis de dire, ben écoute, c'est à mon tour de donner les meilleurs termes et les meilleures conditions dans 5 ans.
Exactement ça.
Mais c'est hyper important, je pense, de reconnaître ça aussi. Tu sais, souvent, on est focus sur les chiffres puis où est-ce qu'on peut aller tirer. Puis des fois, les gens embarquent dans la game l'immobilier en se disant, hey, il va falloir que je tire sa couverte puis je souhaite tout le temps, tu sais, que je sois un négociateur hyper tête, mais c'est pas toujours ceux qui réussissent le mieux.
Non, je pense pas, vraiment pas. Puis même des fois, en tant que courtier hypothécaire, on se fait mettre sur le gun contre 3 autres courtiers hypothécaires. Tu sais, à un moment donné, c'est correct, prenez-en un puis c'est correct. Puis c'est bien correct, mais je voulais rajouter quelque chose. T'sais, on le sait très bien que dans un dossier comme ça, il y a tellement de paramètres qui changent. Là, dans la construction, veut pas, tu défais quelque chose, tu trouves un problème.
Ouais.
Ben, avoir un filtre là, qui dit un peu où t'en allais, quoi dire, puis...
Ouais, une barre, tu veux dire un lien...
Ouais. Parce que si tu reviens tout à ton banquier, ah, sacrément, on vient de trouver ça, puis ouais. T'es pas capable ben non, parce que t'es trop émotif...
Un message à chaque là, demi-journée.
Là, tu fais juste...
Hey, j'ai trouvé de la pourriture, j'ai trouvé ici, j'ai... Hey, il va capoter.
Oublie ça, là. Lui-même, il devient comme... Hey, là, ça marche pas, là, il se met à checker. Fait que, tu sais, faut que tu fasses attention. Fait que c'est pour ça que le courtier hypothécaire est vraiment une bonne option. Même.
Ah oui, puis ça devient ta meilleure zone tampon pour pouvoir divulguer l'information de la bonne façon. Parce que là, la grosse problématique, c'est que si tu es en relation directe avec ton directeur de compte, puis que tu l'appelles aux deux jours pour lui dire, écoute, j'ai trouvé ça, il va falloir prévoir telle affaire, mais tu le demandes pas encore, tu fais juste prévoir. Puis là, après ça, tu le rappelles deux jours après pour dire, écoute, on a fait l'autre barre, puis c'est pareil, puis il va falloir doubler le montant. Ça se peut que ça y tente de se sauver à la course, puis de dire, écoute, toi, tes travaux, là, t'es financeras comme tu veux, là, mais moi, je stoppe ça là.
Puis je décaisse plus. Je vais m'assurer
de protéger ça. Puis, tu sais, une des choses qui est vraiment importante aussi, oui, on parle des banques traditionnelles, on parle des banques virtuelles, mais vous avez aussi un réseau de contacts externes qui vous permet d'avoir du financement alternatif ou des prêts privés qui va pouvoir permettre d'avoir un buy-in qui peut être intéressant sans nécessairement être trop prenant. Parce que quand on parle de prêts privés, on voit toujours Grinch. Hein? On arrive dans le temps des fêtes, fait que, on voit toujours Grinch qui va vouloir avoir tous les sous pour lui, etc. Est-ce que le financement alternatif est réellement alternatif, vraiment intéressant pour aller de l'avant dans les projets?
Ah, il est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. J'en ai fait plusieurs, là, des beaux, c'est que le client est venu me voir. J'ai dit, écoute, je te le dis tout de suite, ça passera pas, ça sera pas du financement bancaire. Là. Puis regarde, vas-y, puis il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Le gars, il revient, s'est asseyé, s'est pété le nez à deux, trois places. Il revient, il me représente le dossier. Ouais. C'est sûr que son dossier est moins intéressant. Mais même à ça, ça reste que on l'a financé. Puis justement, il a fait un 85%. Puis moi, vu que j'ai été mis au courant tout de suite au début, c'est ça le plan. Ben, tu sais, je le montre, je le sais, je screen, je sors tous les titres de son parc immobilier, je le sais s'il y a des deuxièmes, puis je vais le mettre en condition de débourser. Si jamais il m'a menti à des places, il m'a dit, regarde, là-dessus, tu sais, tu m'as dit ça, puis c'était pas ça. Ouais. Moi, je veux que ce soit réellement radié. Je veux que la radiation soit faite avant le débourser, parce que tu m'as dit que, techniquement, il est pas supposé avoir de prêt là. Ben, parfait, c'est un conditionnel. Tu sais, faut que tu sois aussi, à un certain moment donné, honnête, mais en tant que, je dis que je suis prêteur privé, c'est l'argent de mes investisseurs, mais ils me font tellement confiance que si je dis qu'on vire à gauche, on vire à gauche. Puis moi, si je le file pas là aussi, j'irai pas parce que faut
que... Toi, tu vas avoir des comptes à rendre tantôt de toute façon. Puis toi, tu veux qu'il soit présent sur un autre deal où ce qu'il peut être un peu plus frileux. Puis il va dire, à cause que tu m'as tout géré mes dossiers vraiment corrects, que celui-là, écoute, on donne du pouce dessus puis on fonce.
Ben c'est ça. Ça, c'est une relation de confiance, justement. Puis quand je dis, tu sais, justement, faire affaire avec quelqu'un de complet, là, c'est ça aussi. Là. Ça fait partie du tout, là.
Fait que toi, t'es capable d'orchestrer la partie prêteur privé. Comme, par exemple, dans l'exemple, tu disais tantôt, si t'as pas la pleine mise de fonds de 150 000, c'est il te manque ça. Un 50, un
puis
60.
Moi, je vois que le deal, il se fait pareil, là. T'sais,
ouais, c'est ça.
Le deal.
C'est un bon deal,
c'est un bon deal.
Il y a juste un manque de liquidité à l'achat.
Ben exactement ça. Puis je le sais très bien qu'il y a de l'équité. Je le sais que le secteur où c'est qu'il est, on le sait, on a tant de comparables dans l'ordinateur, on le sait que ça va sortir à temps. Fait que, tu sais, à moins que le gars vraiment, là, il l'échappe dans sa construction, ben, tu sais, le rendu là, c'est lui qui nous aura vraiment pas dit qu'est-ce qu'il y avait à faire.
J'ai une question intéressante là-dessus. Est-ce qu'on y va forfaitaire ou cost plus pour les institutions financières?
le bancaire va te dire forfaitaire, mais tu sais, on sait que cost plus, des
cost plus budgétaire, mettons. Budgétaire. Avec budget.
Ouais.
Ouais. Il y a un peu à pas trop se fermer les yeux puis foncer, là.
Ouais. Mais c'est quand même super pertinent. Écoute, Denis Nadeau, ça va vraiment trop vite, notre émission. C'est un de mes coups de cœur pour vrai au niveau, de nos différentes capsules, les invités qu'on a reçus, le contenu qu'on a pu donner, puis aussi l'entre-émission qui était quand même...
Durant les pauses.
Durant les pauses, qui était vraiment, vraiment très cool.
J'ai bien aimé, c'est l'entre-émission.
Puis, vous voulez avoir des informations au niveau du financement multirésidentiel, je vous suggère fortement de contacter Denis Nadeau de Groupe Commercial. De quelle façon qu'on peut communiquer avec toi?
De plein de façons. On a notre page sur Facebook, Groupe Commercial. Allez liker, on aime bien ça, on est comme tout le monde. La publicité naturelle, c'est tout le temps plaisant. Puis, il y a une chose qui est quand même intéressante sur notre on est Groupe Commercial, donc si vous likez notre page, à tous les jours, on met les obligations. Donc, tu sais, souvent, le CMB qui appelle, tu te souviens, c'est souvent interrelié avec le coût des fonds des institutions financières. Bon, ben, avec les Canada, à tous les jours, on le pose. Donc, vous savez, le marché, il monte-tu, il descend, il monte-tu. Est-ce que le courtier hypothécaire qui se fait faire ou peu importe, même si vous ne faites pas affaire avec moi, venez voir ma page, j'allais au moins savoir si vous faisiez frimer quand vous arrivez pour geler votre taux d'intérêt. Puis ça, c'est vraiment d'être transparent. Puis vous pouvez me rejoindre aussi, ben, on a beaucoup de, ma page multilogement.ca, multilogement.com.
Si vous voulez avoir vraiment des informations, contactez-moi directement, jean-françois-morin.ca. Ouais. Vous pouvez aller sur notre site internet, on a vos coordonnées. C'est sûr que c'est pas Denis Nadeau. Nous, on réfère Jeff, mais c'est la même business, c'est la même équipe.
On est 50-50.
Ben oui, c'est ça, tout. Exact. C'est la même équipe et on a la même expertise, fait que ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Restez avec nous juste après la pause, c'est Copy Management avec nos chroniques de Copy Management. N'oubliez pas tout de suite après notre émission ou pendant notre émission, déplacez-vous au Galerie Chagnon pour aller donner quelques dons au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Tout le monde doit se mobiliser pour aider les enfants d'un milieu vulnérable. C'est tellement important. Ça vaut vraiment la peine. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Passez des joyeuses fêtes.
Oui, joyeuses fêtes. Merci, Jean-François.
C'est JMD, le 96.9 à Lévis.
Ça va bien? Kevin, moi, là?
Kevin, toi, oui, ça se passe avec Kevin Pépin.
Yes, sir.
Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de Copy Management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler de plein d'informations sur le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà de nous donner de l'information, c'est très éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que c'est beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars.
Ça fait plaisir.
Ça nous fait toujours plaisir. Yes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. C'est quoi le tri?
Qu'est-ce que ça mange en hiver? Taux de rendement interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça?
Ça commence fort, là. Tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, etc. Mais effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, puis tu vas venir, si on veut, vulgariser tous ces termes-là, puis qu'on puisse avoir une meilleure tête, puis une meilleure idée de comment ça fonctionne.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de finances ou de cours de finances. La vanne et le tri, ça veut absolument rien dire. Fait. On part du début.
On part du début. Correct. Ben, en fait, ce qu'il faut retenir, là, on va le vulgariser vraiment de manière brute, là, c'est votre rendement qui parle vraiment au niveau des variations de liquidité dans le temps. OK? Donc, sans rentrer dans la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous faites vous analysez un projet d'investissement immobilier, bon, il y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement. Il y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur équité, qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Mais là, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le vrai rendement pour analyser un projet.
Tu prends en compte le temps.
Tu prends en compte le temps, exactement. Ça prend en compte surtout au niveau des liquidités dans le temps. Donc, la valeur temporelle de l'argent.
Fait que au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement.
Exactement ça. Donc, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, bon, on se dit que l'immeuble va prendre la valeur dans le temps, puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où est-ce que vous le revendez dans 10 ans, bon, mais tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi ça comme rendement? Et là, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en liquidité. Ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, rendu au bout de 10 ans, tu refais une vente. Une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu dis, hey, là, j'ai fait comme 200% de rendement, tu sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où est-ce que tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent « Hey, je l'ai vendu le double en 2010. » OK, t'as-tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, t'as peut-être fait 2-3% par année. Donc, t'as à peine battu l'inflation ou pas. Et voilà.
Exactement. Puis encore là, dans le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer ben, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr, pour quelqu'un qui est qui a des connaissances en mathématiques financières, ben le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour qu'ils soient égal à mon investissement au temps zéro, qui est la VAM, autrement dit, jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement.
Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps?
En termes de rendement. Ouais, c'est vraiment le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour avoir plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investir à faire des analyses de projets d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous parlez. Puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet.
Parce que c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que pour ceux qui connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. Fait que ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est quand on actualise, mettons, pour que les gens comprennent bien, c'est que on vient ramener le dollar dans 2 ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que l'argent vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la montée du coût de la vie.
Ouais.
Fait que c'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. C'est très important, justement, parce que ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets, le tri, je crois, là. À moins que moi-même, je suis pas sûr de le comprendre à 100%.
Non, clairement, comparatif, parce que justement le tri,
c'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser.
Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de décomposition du bénéfice et du tri, eh bien c'est le tri composé de quoi, puis où est-ce qu'il y a son rendement? Parce que je peux, exemple, sur 5 ans faire un projet d'investissement, puis on va faire l'analyse, on peut aller sur Excel ouvrir un tableur, puis mettre des variations de liquidité dans le temps, et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui. Puis l'année 1, 2, 3, 4, je reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 %. Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois à l'année 1, 2, 3, 4 des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, j'ai plus de revenus de loyer. Puis à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 % de tri. Et ainsi de suite, on peut bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben c'est le moment qu'il y a la variation de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, entre le scénario 1 et 2, qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus en 5 ans, puis l'autre, j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc ce qui est net de vos dépenses d'opération et du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc ce que la réduction de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc, évidemment, si vous êtes... La plus-value de la bâtisse, tout ça, que, en règle générale, dans la plupart des entreprises ou des états financiers en immobilier, on va pas venir évaluer à chaque année, mais les grandes sociétés immobilières, eh bien, réévaluent la valeur de leur actif à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur s'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre bénéfice est comme composé de 3 morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles, la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 3 morceaux-là, il y en a une qui est liquide, puis les 2 autres sont totalement illiquides. Donc, pour que les 2 illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soient un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon le solde de la dette actuelle, ou lorsqu'on va vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet... Et principalement un tri illiquide ou il est un tri liquide? Et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité-là? Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, là, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40%. Mais 3 quarts du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben il est, par exemple, à 90%, c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif, qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
Oui, parce que si je peux rajouter, dans le fond, sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. Fait que j'imagine qu'on doit attribuer, pas la crédibilité, mais la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value, automatiquement, 90% des gens vont pitcher 2%, puis on se casse pas la tête avec ça, on met
exactement
ça dans le tableur. Mais
tu sais, c'est quoi le TGA de vente dans 10 ans? L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 ans.
Tandis que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est du moment qu'on a notre prêt initial, on a tout notre calcul d'amortissement d'hypothèque, ben ça, c'est connu, là.
Exactement. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie... Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. OK? On se dit, exemple, sur 5 ans, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur, puis je me dis que dans 5 ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque, je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on est capable, nous, de venir segmenter le tri, de dire, mais regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne tant. Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne tant. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à les investisseurs sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués, et c'est le cas de leur communiquer. Parce que si tu leur dis, mon projet, il fait 30% de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à parler de rendement.
CJMD,
l'alternative radio.
CJMD, là où les rappers puis les fans de métal, rock et chill, tour à tour.
La radio de Lévis.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.